Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans. J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur. Je serai pilote. Le meilleur de la galaxie.
Hé, hey, petit! Je suis en train de former un équipage.
Ça vous 8h21. Une autre histoire de Star Wars. Cette fois, c'est Han Solo.
Oui, qui est communément en bon français un spin-off de, des trilogies qu'on a pu voir. Ça sera projeté en sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes.
Défini pour les, peut-être les gens les moins initiés, que veut dire un spin-off?
Un spin-off, c'est une série parallèle. Donc, c'est une histoire qui va. Ben, dans le cas de Star Wars, c'est une histoire qui va venir compléter, qui va venir combler un trou entre la trilogie. Vous savez, la trilogie originale qu'on a vue, celle, puisqu'on est tout mêlé là, dans les trilogies, mais celle où on a vu quand on était petit dans les années 80, cette histoire-là arrive juste avant. Donc, un spin-off, c'est vraiment c'est un dérivé.
Où on prend, souvent ça implique un personnage. Prenez l'exemple de, je pense, un des plus connus là, de l'histoire récente de la télévision, c'est, vous connaissez la série Cheers aux États-Unis qui a été très, 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 très populaire. Un des spin-offs les plus populaires qui est sorti de là, c'est Frasier. Alors que Frasier était un personnage de Cheers.
Et
à un moment donné, on a sorti, puis on a fait...
C'est quand un des personnages récupère sa propre
exactement.
Série.
Ces temps-ci, Big Bang Theory a Young Sheldon, qui est l'histoire de Sheldon Cooper, qui est un des personnages. Ceci dit, je vous laisse aller, madame.
Alors voilà, ça sera projeté en sélection officielle, mais c'est hors compétition au Festival de Cannes. Ça va être projeté quelques jours avant la sortie en salle. La sortie officielle du film Han Solo, c'est le 25 mai ici pour le Québec. Et le Festival de Cannes, lui, se déroule du 8 au 19 mai. Donc, c'est quand même une bonne primeur. C'est au moins une dizaine de jours d'avance. J'aurai la chance de voir cette projection-là dans le Grand Théâtre Lumière, qui est une des plus belles salles de cinéma au monde. Et l'histoire de Han Solo, ça va raconter la jeunesse de ce personnage-là. Ça va raconter, on va le voir là, arriver avec l'Alliance Rebelle, on va le voir rencontrer Chewbacca. Ah oui, Chewbacca, sa grande bête, c'est son fidèle acolyte. On va le voir aussi rencontrer Lando Calrissian.
Oui.
Et puis voilà. Alors, c'est réalisé par Ron Howard, qui a fait le film Apollo 13, qui a fait des Harry Potter, qui a fait le film Splash aussi. Et dans le rôle de Han Solo, évidemment, ce ne sera pas Harrison Ford, qui est rendu beaucoup trop vieux. Il s'appelle Alden Ehrenreich. On a pu le voir dans le film Blue Jasmine. Et dans le film aussi, on va pouvoir voir Woody Harrelson et Emilia Clarke, qui, elle, fait partie de la série Game of Thrones. Et quand on parle de Chewbacca, ce n'est pas Peter Mayhew qui va jouer le rôle de Chewbacca, qui a fait tous les films où on a pu voir Chewbacca depuis le début de l'histoire de Star Wars. Il a maintenant 73 ans. Alors, c'est Jonas Suotamo qui va incarner Chewbacca. C'est une première. Ben oui, on l'aime tellement. Chewbacca. Alors, voilà.
On va parler de Stranger Things parce que c'est une des séries populaires sur Netflix. Et les créateurs sont accusés de plagiat.
Oui, par un réalisateur américain qui s'appelle Charlie Kessler, qui poursuit les deux créateurs de la série Stranger Things. Ils s'appellent les frères Duffer. Ce que lui raconte, c'est qu'il avait présenté un projet qui s'appelle The Montauk Project, qui est un court-métrage de 6 minutes, qui devait devenir un long-métrage d'1h30. Il avait fait sa présentation au festival de Tribeca en 2014. Et là, il a vu arriver la série en 2016. Donc, il est extrêmement en colère, extrêmement choqué de voir son histoire devenir une série et une histoire assez populaire. Par contre, les frères Duffer se sont défendus. Ils n'ont dit n'avoir jamais rencontré M. Kessler, n'avoir jamais eu d'échange sur ce type de série. Et l'histoire, là, elle est vraiment sensiblement la même. Ça racontait une petite ville en marge qui habite près d'une base, tu sais, la ville est près d'une base militaire. Et là, il y a disparition d'un jeune garçon. Fait que, tu sais, c'est une histoire qui est sensible. Est-ce qu'il y avait toutes ces références aux années 80? Ça, j'en suis pas nécessairement...
C'est beaucoup le carburant aussi de cette histoire-là, de la série qui la rend si populaire. Toutes les références historiques également de... qui va puiser dans notre nostalgie.
Oui. Mais je suis pas sûre que c'était là au départ dans le projet
dans
de
le
M.
projet
Kessler.
Qui avait été présenté, ouais.
Moi, je pense que ça, après, c'est une facture qu'on a voulu donner à la série, mais je serais pas surprise, moi, qu'on ait pris l'idée de ce court-métrage-là.
Possible.
Tu sais, quand on parle d'une rencontre précise dans un lieu, qu'il y avait un témoin, son agent était là, tu sais, je me dis, là, ça commence
hasard,
à faire...
Hein.
Ouais, beaucoup de gens qui auraient menti. Fait que là, c'est vraiment leur parole contre... La parole d'un contre l'autre.
On a parlé beaucoup de la Bolduc qui avait été présentée en première en Outaouais, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs.
Il y a deux semaines, oui.
On a parlé avec Debbie Lynch White à ce moment-là et ça sort en salle.
Ça sort en salle.
J'ai un clou sur le nerf du cou qui est aussi grand qu'un dessous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le banc d'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'ils tiennent pas son garantie 14 carats. Puis j'en ai un, c'est le bout de la langue qui m'empêche de tout lutter. Puis ça me fait
C'est une grande sortie parce que c'est partout à travers le Québec. Ça raconte l'arrivée de Mary Travers qui part de la Gaspésie pour s'en aller à Montréal, qui aspire simplement à se marier. Et on raconte de la façon avec laquelle elle est devenue célèbre. Elle est devenue la chanteuse qu'on connaît, la Bolduc. C'est un film qui est assez classique dans sa composition. C'est ce qu'on appelle un biopic. Mm-hmm. Tu sais, on connaît beaucoup de biopics en musique. C'est pas mal construit toujours de la même façon, l'ascension de la personne, comment elle est devenue très, très célèbre. Mais ça raconte aussi un pan de notre histoire. Qui est très instructif, qui raconte un peu la levée du féminisme au Québec via le personnage de Thérèse Casgrain. Ça s'entremêle avec l'histoire de la Bolduc. La Bolduc, ce n'était pas une revendicatrice, ce n'est pas une femme qui a cherché à aller plus loin, à s'émanciper. C'est vraiment quelqu'un qui a fait une carrière presque contre son gré, qui a fait ça pour nourrir sa famille. Alors, c'est un peu étrange de voir les deux histoires s'entremêler parce que carrément, on ne la sent pas très heureuse de sa situation. Moi, je trouve que Debbie Lynch White ne sourit presque jamais. On lui avait d'ailleurs demandé si, selon elle, la Bolduc avait été une femme heureuse
ou
pas.
Ben oui, tu avais demandé ça.
Exactement. Alors moi, je considère que quand on regarde le film, on ne croit pas qu'elle est heureuse. Mais sinon, ça reste un film assez pertinent parce qu'on y voit justement la crise économique.
Ouais.
On voit à quel point les gens étaient dans la misère et à quel point la Bolduc est venue aussi mettre une espèce de bombe, un pansement sur des gens qui souffraient parce qu'ils manquaient carrément d'argent, ils ne mangeaient pas. Donc, elle est venue vraiment aider... la population. Et juste pour ça, je pense que ça vaut la peine d'y aller.
Merci beaucoup. Puis c'est une époque qui est quand même pas très lointaine de la nôtre, mais assez lointaine pour qu'on l'oublie. C'est une génération qui nous a quittés ou est en train de nous quitter tranquillement pas vite avec ses histoires. Puis pour peut-être les quarantenaires, cinquantenaires, même quinquagénaires, qui ont connu la fin ou raconté peut-être les histoires de leurs parents ou leurs grands-parents de cette époque-là où c'était vraiment pas facile.
Mais je pense que
ça peut être un bon rappel en même temps de le mettre en image là, sur ces histoires racontées.
Ça nous rappelle notre patrimoine.
Merci beaucoup, Catherine. Dans un instant, on va discuter avec quelqu'un qui connaît bien Humboldt où résidait cette équipe des Broncos qui a été décimée par un accident d'autobus hier soir en Saskatchewan. Je rappelle que le dernier bilan de la Gendarmerie royale du Canada fait état de 14 morts. 14 blessés pour les 28 passagers à l'intérieur de cet autobus transportant cette équipe junior 3A de la Saskatchewan, frappé par un camion semi-remorque. On y reviendra dans un instant avec quelqu'un qui a joué là-bas.